Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM, c'est Voix au chapitre, merci de votre fidélité hebdomadaire. Le plaisir d'accueillir ce dimanche Isabelle Coutant, elle est l'auteure d'un ouvrage qui est paru aux éditions du Seuil, Les migrants en bas de chez soi. Bonjour Isabelle Coutant.
Bonjour.
Merci d'être là, nous allons évoquer tout au long de ce Voix au chapitre ce dimanche votre ouvrage. Vous présentez d'abord, vous êtes sociologue, vous avez publié de nombreux ouvrages qui sont essentiellement dans vos recherches, si je puis le dire ainsi, de sociologue sur les quartiers populaires, c'est ça? Qu'est-ce qui vous détermine à travailler dans ce domaine avant d'entrer au cœur de votre ouvrage?
Donc oui, je suis sociologue, je travaille au CNRS maintenant depuis une quinzaine d'années. Et j'ai commencé à faire mes premières recherches sur les quartiers populaires, venant moi-même d'une ville ouvrière. Et voilà, j'ai des grands-parents ouvriers, donc j'étais dans une sociologie des classes populaires assez classique, autour du monde ouvrier quand j'étais plus jeune. Et puis au moment de ma thèse, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait plutôt dans les cités d'habitat social. C'est un moment où on parlait beaucoup des incivilités, il y avait une focalisation sur la petite délinquance et un discours de tolérance zéro. Le virage répressif envers cette jeunesse des quartiers populaires. Donc je me suis demandé pourquoi on ne tolérait plus. J'étais sur une question naïve de départ. Est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup plus de délinquance ou est-ce que c'était la société qui devenait intolérante? Donc ça a été un travail de thèse et du coup à travers cette recherche là dans les quartiers d'habitat social en Île-de-France, j'ai commencé à croiser question des classes populaires et question de l'immigration.
Voilà, parce que les choses, j'allais y venir évidemment. Parce que quand on parle de milieu ouvrier, on parle de milieu immigré, de milieu migrant, travailleurs immigrés. Puis quand on parle de quartier, on parle de cette immigration venue travailler dans le milieu ouvrier et venue vivre après dans les baraquements, bidonvilles, puis ensuite cité. Donc tout est lié à la fois dans cette recherche que vous faites. Et aujourd'hui, se voir à propos de ce livre, Les migrants en bas de chez soi, on va parler de vous déjà. Isabelle Coutant, vous habitez dans un quartier populaire, justement, du 19e arrondissement. On va le citer, qui est la place des fêtes, puisque tout au long du livre, il y a ce rapport, cette proximité dans votre vie, qui est celle d'être au cœur de cette cité place des fêtes. Et puis, en présentant votre ouvrage, rappelez qu'il s'agit dans ce livre de ce qui s'est passé en juillet 2015. Il y avait près de 150 migrants réfugiés qui venaient de l'Afrique, du Soudan, d'Érythrée.
Voilà, Corne de l'Afrique.
De la Corne de l'Afrique, d'Éthiopie peut-être aussi Non.
Peu.
Enfin, peu. En tout cas, c'est surtout l'Érythrée. Voilà.
Érythrée, Soudan.
La Corne de l'Afrique, Soudan, voilà. Donc ils sont près de 150 à leur arrivée dans un établissement, dans un lycée qui n'est plus occupé, le lycée Jacques Carré.
Jean Carré, pardonnez-moi. Ancien résistant,
absolument. Je voulais le présenter aussi. Voilà, tout est lié, hein, décidément. On a beaucoup de détermination. Et quand vous parlez, et finalement quand j'anime cette rencontre, parce que l'histoire, elle est forte, elle est dense. Parce qu'elle est l'histoire d'aujourd'hui, l'histoire de la France aujourd'hui, et qui est cette histoire de comment s'interroger. Quand on est sociologue, quand on est citoyenne de ce quartier populaire du 19e arrondissement, de cette place des Fêtes, et comment vous avez observé sociologiquement, mais observé comme citoyenne, comme parent d'élève, comme proximité avec ces migrants qui ont débarqué ce 31 juillet dans ce lycée. Et qui étaient 150 à leur arrivée et qui sont après venus de plus en plus nombreux. Ils étaient plus de 1400 le 23 octobre, date importante puisque c'est la date où on va délocaliser cette occupation de ce lycée. Alors, vous nous rappelez historiquement comment ça s'est passé et comment vous entrez, j'allais dire, dans ce lycée au sens sociologique, c'est-à-dire comment vous êtes au plus près de ces migrants dans ce lycée, parce que tout au long du livre, on voit bien qu'il y a plus que l'étude, il y a vraiment l'envie de savoir, l'envie de comprendre. On reviendra sur la solidarité, mais l'envie de comprendre. Et donc, pour comprendre, il fallait y aller.
Voilà.
Et vous y êtes allé.
Oui. Alors moi, j'ai appris que ce bâtiment était occupé au cours de l'été, donc j'étais à ce moment-là en vacances, comme pas mal d'habitants du quartier. Donc j'ai appris que cet ancien lycée désaffecté était occupé par la presse, par les réseaux sociaux, avec au départ plutôt une appréhension, une inquiétude et un peu de colère envers les pouvoirs publics, puisque la ville de Paris a annoncé assez rapidement qu'elle tolérait ce squat, en fait. Ce qui m'inquiétait, c'était que c'était en face du collège du quartier, qui est un collège du réseau d'éducation prioritaire, collège assez difficile. Donc il y avait une inquiétude en tant que parent, et puis aussi colère un peu envers les pouvoirs publics de me dire que finalement les migrants qui avaient été chassés des rues de Paris tout au long du mois de juin des campements,
c'était les migrants qui arrivaient des campements,
de la Chapelle, voilà,
et qui eux-mêmes arrivaient de Calais.
Pour certains arrivaient quand même directement de leur périple. Et donc j'étais un petit peu en colère que ce soit toléré à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'au pied des HLM, dans un quartier déjà stigmatisé, déjà en difficulté, j'étais pas en colère contre les migrants, mais contre les pouvoirs publics, de tolérer à partir de ce moment-là. Je trouvais ça, enfin, je sais pas si c'était du cynisme, mais je l'ai vécu comme tel. Donc ça, c'est le point de départ de ma rencontre avec l'événement. Et à la rentrée scolaire, de retour à Paris, j'ai commencé à me rendre compte que ça créait quand même des tensions dans le quartier, des conflits.
Des colères.
Voilà, entre des habitants, au niveau des associations de quartier, dans les amicales de locataires. Donc là, il y a la sociologue en moi qui s'est un peu réveillée. Et puis inversement, j'étais surprise de voir à quel point les parents d'élèves étaient plutôt calmes par rapport à ce qui se passait. Je me suis dit que ça se serait pas passé partout comme ça. Donc il y avait aussi quelque chose à comprendre sur ce calme-là au niveau de ce qui se passait autour des établissements scolaires. Et je me suis dit que j'allais commencer à prendre des notes et je me suis dit qu'il y avait quand même une enquête à faire, voilà, sur ce que ça allait produire dans le quartier. Je me suis plutôt dit d'abord, on a là une expérience locale de ce qui est en train de se passer dans toute l'Europe. Qu'est-ce que ça provoque en nous, chez nous? Voilà, une arrivée.
En nous individus, puis en nous collectivement aussi.
Voilà, en nous société.
Voilà, oui.
Qu'est-ce que cette arrivée des migrants non préparés, face à laquelle les pouvoirs publics sont pas organisés? Voilà, qu'est-ce que cette rencontre provoque et qu'est-ce que ça va faire dans le quartier? Qu'est-ce que ça va produire? Je savais pas au point de départ. Donc, je me suis dit que j'allais commencer à observer. Donc, j'ai d'abord été dans les différentes réunions locales, prendre des notes avec mon journal de terrain. J'ai rencontré des élus locaux, j'ai rencontré des représentants d'associations locales. Et puis, ça, c'est le début de la recherche tout au mois de septembre, sachant qu'il y avait 50-100 migrants qui arrivaient toutes les semaines, hein. Et c'était un lieu qui fonctionnait en autogestion avec un certain nombre de soutiens du côté de la société d'accueil. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient là en soutien des migrants. Et puis fin septembre, il y a quand même eu une évacuation prononcée par le tribunal pour des questions d'insalubrité et d'insécurité interne au lieu. Donc quand j'ai su que le lieu allait être évacué, je me suis dit qu'il fallait quand même que je rentre. Voilà, que je rentre à l'intérieur, rencontrer ses occupants, que je pouvais pas juste travailler sur le quartier lui-même. Et notamment, j'avais pour projet de rencontrer les représentants des migrants. Il y avait des élus par chambre, des élus par nationalité. Donc, ils étaient organisés. Il y avait à la fois majorité de Soudanais, d'Érythréens, mais aussi beaucoup d'Afghans, qui venaient pas des mêmes lieux, pas des mêmes campements. Ce sont pas les mêmes campements dans la ville, mais qui se sont retrouvés dans ce bâtiment, du coup, pendant 3 mois. Et donc, j'ai eu pour premier projet de rencontrer les représentants des migrants et voir effectivement quelle était l'articulation entre eux et le quartier. Et donc là, j'ai passé 3 semaines à aller quasi quotidiennement dans ce bâtiment, essentiellement avec les Afghans, parce que comme ils étaient organisés par nationalité, ils captaient les ressources quelles qu'elles soient. Et donc comme je suis rentrée d'abord auprès d'eux, après voilà, je devais aussi rendre quelque chose. Enfin, j'étais invitée à prendre le thé, à dîner, donc c'était compliqué après de circuler. Je leur devais aussi quelque chose, donc je suis restée beaucoup auprès d'eux. Et là, je savais plus trop si je faisais de la recherche ou pas. J'ai vécu ce qu'il y avait à vivre. J'ai donné des cours de français. J'ai eu beaucoup de discussions informelles. J'ai pas cherché à faire des entretiens classiques parce que je me doutais bien que dans ce contexte, leur parole était forcément très prudente. Ils savent que ce qu'on attend d'eux, c'est le récit de vie et que la question de leur avenir en France en dépend. Donc voilà, j'ai pas cherché. À ce moment-là, je me suis laissée porter par le lieu et par les rencontres, en fait. Donc ça, c'est le deuxième temps de la recherche. Et troisième temps, qui sera après l'évacuation, qui est plus un travail dans le quartier, auprès des habitants, mais ça, peut-être, on en reviendra tout
Bien
à l'heure.
Sûr. Alors, on va reprendre ces temps que vous avez énumérés. Le premier temps, c'est le quartier. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez dit le mot tension? Il y a effectivement, selon et ce que vous dites dans cette enquête, ce qui est rapporté, une tension du quartier. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils font là? Comment on va faire? Il y a les inquiétudes, il y a la peur, il y a la colère qui soit là. Donc, comment vous avez pu sentir à la fois dans cet ensemble des habitants du quartier, à la fois la colère d'abord? On reviendra ensuite sur la solidarité, parce qu'après, il y a même les pleurs quand ils s'en vont. Donc, il s'est passé une transformation, à la fois humainement chez les uns et les autres, et collectivement aussi, il y a eu quand même quelque chose de... Moi, ce qui est intéressant dans votre enquête, Isabelle Coutant, c'est cette idée de... Vous rencontrez des migrants, donc des individus, pas le groupe, vous les rencontrez, il y a quelque chose qui s'opère entre vous et eux, et puis c'est pareil avec l'extérieur, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque... On est dans de l'humain, dans ce que vous dites là, c'est ça qui est...
De la rencontre.
De la rencontre, bien sûr. Donc cette tension, quand vous interrogez le quartier, justement, c'est tout de suite, c'est la colère, c'est la peur, c'est...
En fait, il y a l'histoire des migrants quand ils arrivent dans ce bâtiment, donc qui se sont fait évacuer parfois très violemment d'un certain nombre de campements. Et puis il y a l'histoire d'un quartier. Et ce quartier de la Place des Fêtes, c'est un quartier à la fois populaire, multiculturel, c'est une terre d'accueil depuis la fin du 19e siècle, qui a accueilli des exilés depuis plus d'un siècle, donc qui est majoritairement composé d'employés, d'ouvriers, professions intermédiaires.
Bon, quelques
cadres aussi, voilà. Le taux de chômage était de 16% à peu près au moment de l'enquête. Et c'est aussi un quartier immigré, il y a 25% d'immigrés dans ce quartier. Pour partie, alors qui abrite une partie de cadres parce qu'on est en Paris, donc il y a une toute petite gentrification, mais quand même nettement plus légère que dans beaucoup de quartiers parisiens. Et puis il y a quand même 50% d'habitat social. Le secteur qui entoure ce bâtiment occupé, c'est 90% de logements sociaux. Et donc sur ces parties-là, il y a une partie de la population qui s'est précarisée ces dernières années. Et même ce secteur-là a été en partie classé en contrat de ville, donc relève de la politique de la ville. Donc c'est un quartier assez fragile. Et il y a tout un travail d'un certain nombre d'associations locales de tenter d'améliorer la vie dans ce quartier, de faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas de fuite d'évitement scolaire au niveau du collège, donc d'essayer de revaloriser un peu l'image du lieu, de faire en sorte que les pouvoirs publics s'y impliquent davantage. Et il avait été obtenu par des associations locales que ce bâtiment désaffecté soit transformé en médiathèque, sachant que le 19e arrondissement est le seul arrondissement de Paris sans médiathèque. Donc c'était un enjeu fort et c'était une très grande victoire dans un quartier qui au départ avait été conçu dans les années 60, 70 sans équipement, hormis les écoles, hein, mais il n'y a aucun équipement socioculturel, rien du tout au départ. Donc là il y a un centre d'animation depuis quelques années, mais déjà ça avait été une conquête. Et là cette médiathèque, il y avait un peu le sentiment pour un certain nombre d'acteurs locaux qu'il y avait quelque chose d'un renversement, quoi, d'un autre devenir pour cette place, sachant qu'il y a aussi énormément d'adolescents qui ont peu de structure.
Une valorisation aussi de la culture dans le quartier.
Voilà, donc avec aussi un souci de la culture populaire, de choses comme ça. Donc c'était un projet qui avait été porté, ça avait été voté en Conseil de Paris. Donc évidemment que quand le bâtiment est occupé par les migrants, pour tous les gens qui ont porté ce projet de médiathèque, il y a quelque chose d'extrêmement violent. Voilà, il y a quelque chose qui se télescope et le sentiment que ce sont toujours les quartiers les moins favorisés qui se retrouvent finalement à devoir faire face à des difficultés.
Alors ce quartier, il est en difficulté et s'ajoute à cela effectivement les migrants qui arrivent. Donc il y a le regard des gens du quartier là qui se disent mais encore de la misère qui nous arrive, quoi. Il y a cette, à la fois cet étonnement, mais aussi d'une certaine manière, voilà, la colère de dire. Je me souviens d'un passage dans votre enquête, dans ce livre, quelqu'un dit mais pourquoi ils vont pas ailleurs, pourquoi ils vont pas aux Champs-Élysées, enfin pas aux Champs-Élysées, mais ils vont pas à l'Élysée, pourquoi ils sont. Il y a une espèce de colère spontanée comme ça qui surgit de l'habitant ou d'une habitante et de dire que voilà, c'est encore nous qui prenons, quoi.
Oui, c'est un discours, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le rejet des migrants n'est pas tout le temps, ou peut-être pas majoritairement de la xénophobie.
Voilà.
Et parfois ce sont des gens qui sont eux-mêmes immigrés ou issus de l'immigration, qui disent, ils disent à la fois on n'est pas contre tous ces gens qui arrivent, tout le monde a le droit d'avoir le soleil sur son paillasson, je crois que c'est la formule utilisée, et en même temps pourquoi toujours ici, voilà. Et puis sont parfois des femmes qui sont aides-soignantes, aides à domicile, qui travaillent dans les beaux quartiers de Paris et qui disent mais on voit bien nous les différences, et à un moment donné voilà, comme s'il y a un trop-plein, quoi, pour eux.
Isabelle Coutan, Les migrants battent chez soi, c'est de cela que nous parlons à Voix au chapitre aujourd'hui, on la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beur FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beur FM.
Poursuivons notre rencontre. Je rappelle que je reçois ce dimanche Isabelle Coutan. Elle est l'auteure de Les migrants en bas de chez soi, un livre paru aux éditions du Seuil. On va rappeler de quoi il s'agit. Il s'agit d'une enquête. Isabelle Coutant est sociologue. C'est une enquête qui a été faite dans ce 19e arrondissement, Place des Fêtes précisément, où vous vivez, Isabelle Coutant. Vous êtes sociologue et vous avez observé et analysé ce qui s'est passé en cet été 2015 lorsque 150 migrants se retrouvent occupant un lycée. Et au 23 octobre, le lycée est évacué, ils sont près de 1500. Et vous avez évoqué dans cette première partie de notre rencontre comment vous avez travaillé et comment vous avez observé en différents temps, effectivement, interpellant les habitants de ce quartier populaire où vous vivez, et ensuite les institutions, on y reviendra, et surtout le travail que vous avez fait de proximité humain. Voilà, ce travail humain, j'allais dire, auprès des migrants, lorsque vous êtes entré, vous avez poussé la porte de là où ils vivent. Ils vivaient, en tout cas. Peut-être sur ce rapport que vous avez eu, cette analyse que vous faites des institutions, quand elles, voilà, on reconnaît, on accepte l'occupation, mais on n'y fait rien, quoi. Le politique n'y fait rien, c'est quand même plus qu'un étonnement.
Oui, c'est ce qui
a... C'est une non-responsabilité.
C'est ce qui a déstabilisé les habitants et puis c'est ce qui a amené un certain nombre de voisins, voisines à se constituer un collectif pour interpeller les pouvoirs publics. Parce qu'effectivement, quand la ville a dit qu'elle tolérait cette occupation, les habitants ont cru que la ville allait accompagner l'occupation. Alors c'était complexe parce qu'il y avait un passif et des conflits antérieurs entre les militants qui avaient accompagné les migrants de ce lieu, donc des militants extérieurs au quartier, et puis la ville de Paris et la préfecture. Des conflits qui s'étaient attisés tout au long du mois de juin-juillet au fur et à mesure des évacuations, des campements de rue qui avaient été parfois extrêmement violentes. Donc il y avait une situation qui s'était enquistée et ces militants étaient très hostiles aux institutions. Voilà. Donc du coup, c'était pas évident non plus. Et puis il souhaitait cette autogestion. Avec un discours anti-paternaliste, anti-colonialiste.
Anti-colonialiste, oui.
Voilà. Donc, ils étaient aussi, pour certains d'entre eux, en conflit avec les associations plus traditionnelles d'aide aux migrants, à qui ils reprochaient une forme de colonialisme. Et trop de collaboration avec les pouvoirs publics. Donc, il y avait cette situation tendue, un peu enquistée. Et donc, quand le voisinage a pris conscience de cette situation-là, il y a eu cette idée de constituer un autre groupe de citoyens. Local pour le coup, qui s'est donné pour objectif de mettre en relation des représentants des migrants et des pouvoirs publics, de contourner finalement le face-à-face entre les militants extérieurs au quartier à l'origine de l'occupation et les pouvoirs publics.
Et des habitants du quartier, de la place des Fêtes, ils s'investissent dans ce qui va s'organiser en termes de solidarité, de compréhension d'abord, pour que cette colère dont on parlait tout à l'heure, ce refus peut-être, d'une certaine manière, pas xénophobe, je l'ai bien entendu.
Peut-être dans certains cas, mais pas dans tous les cas.
Mais en même temps, on n'est pas dans l'indifférence quand même. On ne peut pas ne pas les voir. Donc, il y a une attitude à avoir. Et est-ce qu'on va voir cette attitude se transformer par un élan de solidarité, de plus de compréhension des habitants du quartier?
Alors c'est vrai que pour l'immeuble immédiatement voisin, cet immeuble immédiatement voisin de locataires du logement social intermédiaire avait vraiment vu sur ce qui se passait dans ce bâtiment, c'est à quelques mètres, donc ils voyaient les migrants vivre à travers leurs propres fenêtres, quoi. Donc ces gens-là, ils pouvaient absolument pas fermer les yeux ni ne pas voir, et quand il y avait parfois des bagarres la nuit, un certain nombre d'habitants, plutôt des femmes d'ailleurs, descendaient pour séparer, voilà.
C'est eux qui écrivent cette lettre. Bonjour à vous, habitants du lycée Jean Carré.
Voilà, c'est des voisines et voisins de la 7 barre immédiatement voisine.
Qui expliquent bien qu'ils n'ont rien contre eux, mais quand même, il y a trop de bruit, il faut faire attention au linge et aux têtes. Mais c'est à la fois un souci de... d'apaisement quand
un
même.
Un souci de bon voisinage.
De bon voisinage, comme on peut avoir dans n'importe quelle proximité.
C'est une lettre où ils leur disent, nous n'avons pas choisi que vous soyez là, mais nous n'avons rien contre vous, sauf qu'il faut qu'on fixe quelques règles de bon voisinage.
Voilà c'est ça. Mais elle a du sens, elle est forte quand même.
Alors,
cette lettre,
du coup, ce groupe d'habitants était sur un enjeu, ils n'étaient pas forcément sur la cause des réfugiés de manière globale. Contrairement aux militants à l'origine de l'occupation, mais ils avaient quand même ce souci, la plupart d'entre eux avaient des valeurs d'accueil et de tolérance, mais en même temps ils avaient un souci très pragmatique qui colle avec le contenu de cette lettre, bien qui sûr. Est très concret.
Parce qu'ils demandent à la mairie quand même de prendre aussi leurs responsabilités.
Voilà, et de nourrir les migrants, et d'installer des toilettes, des choses comme ça. Mais ils sont sur du souci concret pour qu'au jour le jour, il n'y ait pas trop de tension, qu'il n'y ait pas de drame, et à la fois pour les migrants, et puis pour aussi préserver l'équilibre du quartier. Ils sont sur ce souci aussi d'un équilibre local. Et comment faire en sorte que ça se passe au mieux, en fait, de manière très quotidienne. Et comment faire en sorte que les enfants continuent à aller à l'école sans que les parents soient angoissés. Donc ils étaient sur des actions comme ça, extrêmement concrètes, pas sur un discours politique très global.
Voilà. C'était le quotidien qui devait primer sur un quotidien équilibré à la fois dans le quartier et puis dans...
Voilà, qu'il n'y ait pas de drame pour personne et que ça se passe au mieux. Et puis de négocier une évacuation des lieux sans violence. C'était aussi ça le souci.
Et vous, Isabelle Coutant, la sociologue que vous êtes, c'est une expérience, si je puis dire, cette enquête d'observer comment se passent les relations migrants-quartiers aujourd'hui, parce que moi, j'ai le sentiment qu'elle est unique, cette expérience, parce que pour être au cœur de cette actualité qui nous sensibilise, ici à Beurre FM, évidemment. Donc, j'ai lu de nombreux ouvrages où il y a des réflexions, les migrants, où vont-ils, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Là, on est vraiment au cœur de l'humain, je le répète.
On est sur l'interaction, en fait.
On est, voilà, c'est ça,
sur eux et nous.
Eux et nous, voilà, c'est ça.
Oui. Et effectivement, il y aurait la même enquête qui pourrait être menée probablement dans tous les endroits où il y a eu des centres d'accueil, des foyers d'urgence qui ont été installés. Les médias en 2015-2016 ont beaucoup relayé les réactions justement d'habitants où on voyait et des hostiles et des solidaires quand les bus arrivaient, quand les lieux s'installaient, dans pas mal d'endroits. Et on n'en parle plus aujourd'hui, on n'en parle plus parce que très probablement ça s'est bien passé en fait. Mais du coup, cette enquête de savoir qu'est-ce que ça produit, elle pourrait être menée un peu partout. Et moi, dans ce qui ressort de l'observation de ce qui s'est passé un an après, le sentiment qu'on a eu après coup, c'est que même s'il y a eu des conflits, même s'il y a eu des gens hostiles, au final, le quartier est sorti quand même renforcé de cet événement.
Renforcé, enrichi même, pas psychologiquement, mais en soi, on est enrichi quand même d'une rencontre comme celle-là.
Même s'il y a des gens qui l'ont mal vécu, il y a eu quand même ce sentiment de faire face à la grande histoire, que malgré tout, le quartier a réussi à traverser cet événement sans trop s'abîmer et d'une manière relativement digne pour le quartier et pour les migrants. Donc ça, malgré tout, ça fait partie de l'histoire locale, c'est une histoire forte, ça fait partie de l'identité du lieu et ça, c'est commun à tout le monde. C'est commun à tous les habitants.
Bien sûr, parce que quand ils sont partis, c'était une grande tristesse.
C'était très choquant. Ça a duré 4 heures l'évacuation, je crois, de 6 heures du matin à 10h, 10h30. Il y avait une quarantaine de bus. Donc ils étaient entassés dans la cour et voilà, c'était très impressionnant. Pour certains des habitants les plus anciens, ça a évoqué d'autres scènes de l'histoire tragique, parce que c'est aussi dans ces quartiers-là qu'il y a beaucoup de communautés juives importantes. Donc il y a une femme qui disait qu'elle se souvenait avoir vu sa mère partir en bus. Du coup, c'était très perturbant comme moment. Et puis, effectivement, c'était un arrachement et c'était même pour des gens qui n'avaient pas forcément été, qui ne supportaient pas cette occupation. Ouais, c'est pour tout le monde, ça. C'était très perturbant et après, ça a fait un grand vide pour tout le monde aussi. Après, il y avait des centaines de personnes et puis d'un seul coup, plus rien. C'est très impressionnant comme sensation. Et il y a deux femmes qui étaient dans les camps opposés dans leur immeuble. Une femme qui a été un peu leader du groupe solidaire des migrants et l'autre qui, à l'inverse, n'avait pas supporté cette occupation. Donc les deux pôles opposés, on va dire. Et ces deux femmes ont eu la même remarque après le départ des migrants. Elles ont toutes les deux dit, on a vécu des morceaux importants de l'histoire du monde. On a reçu des histoires difficiles du monde et il faudrait une plaque commémorative de ce qui s'est passé là.
Ouais. Sur ce lycée où sont ces migrants est à proximité d'un collège. Vous êtes mère d'élèves, vous l'avez rappelé dans le livre et dans cette présentation. Vous êtes parent d'élèves. Les élèves et les enseignants ont évoqué en classe cette proximité. Comment s'exprimaient justement les jeunes avec les élèves? Les jeunes avec les migrants, pardon. Ouais.
Alors en fait,
il y a un travail qui a été fait.
Il y a un travail. Alors je pense que ça dépend des enseignants. Il y a eu quand même beaucoup d'enseignants de ce collège qui ont été solidaires, qui ont écrit, qui sont intervenus, qui ont apporté de la nourriture, qui ont rencontré des représentants des migrants. Et puis qu'on écrit une lettre aussi pour interpeller les pouvoirs publics en disant mais comment est-ce qu'on peut encore transmettre les valeurs républicaines à nos élèves quand ils sont face à une situation avec des gens dont personne ne s'occupe, qui n'ont même pas à manger. Enfin voilà. Donc ils ont interpellé voilà, les pouvoirs publics sur cette situation. Après, je pense que quelques enseignants étaient peut-être plus gênés par la situation. Tout le monde n'était pas forcément complètement... Donc voilà, donc je pense que selon leur sensibilité, ils ont plus ou moins fait un travail avec les enfants. Mais le proviseur avait eu une position très claire dès la rentrée scolaire auprès des élèves et auprès des parents, en disant qu'il y avait de nouveaux voisins et qu'on leur devait accueil. Et donc c'était le discours officiel de l'établissement, en tout cas. Et donc après, il y a des enseignants qui, en essayant de faire le lien avec le programme sur l'exil, des choses comme ça, parlaient de la situation. Et puis après, il a fallu gérer quand même cette cohabitation au jour le jour. La situation était de plus en plus tendue à l'intérieur du lycée occupé, du fait de la surpopulation. Et donc il y avait des bagarres, des choses comme ça. Donc ça a été compliqué au moment de l'occupation d'organiser vraiment une rencontre entre les enfants et les migrants, et ils se voyaient vivre à travers les fenêtres, à travers les grillages, mais il n'y a pas réellement eu de rencontre à ce moment-là. Après c'est vrai qu'il y avait des bagarres, si les migrants s'apercevaient que les enfants étaient pas loin, ça les freinait. Il y avait quand même ce souci-là. Mais il y a eu des moments où ça a trop dégénéré. Peu avant l'évacuation, il y a des parpaings qui sont passés dans la cour du collège. Donc c'était compliqué. Ça s'est terminé de manière assez particulière pour les enfants. Et c'est ce qui a fait qu'avec des enseignants du collège, moi j'ai eu envie, quelques mois après, d'organiser une rencontre entre des anciens occupants du lycée et certains collégiens. Donc ça donne lieu à un des chapitres du livre qui parle de cette rencontre et qui est assez émouvant.
Inoubliable pour les élèves.
Je pense qu'il y a des enseignantes qui disaient qu'elles n'avaient jamais eu un tel silence dans leur classe. Et puis ces élèves sont pour beaucoup des enfants d'immigrés.
Dont
on sait que dans ces familles, les pères ne racontent pas toujours le périple.
Qui ne connaissaient sans doute pas l'histoire
de leur
exil,
propre père. Parce que c'est quand ces exils sont très difficiles, c'est pas facile d'en parler. Et donc là, ils entendaient des hommes qui étaient aussi pères de famille, puisque ces Afghans-là qui ont une trentaine d'années ont déjà 3-4 enfants parfois.
Et donc,
qui ont laissé femmes et enfants là-bas. Donc ils ont posé beaucoup de questions sur les enfants. Et puis du coup, ils ont posé beaucoup de questions concrètement sur le voyage aussi. C'était très... Et puis du coup, ce qui était intéressant, c'est à la fois voilà, comment les enfants étaient captivés par ces discussions, et aussi en sortant ces demandeurs d'asile afghans qui me disaient que... Ils étaient vraiment très contents de cette rencontre et de ces échanges. Ils disaient, mais les enfants, ils posent des questions bien plus intéressantes que les journalistes. Et surtout, je pense que ce qui a dû être important pour eux, c'est que les enfants les voyaient pas forcément de manière misérabiliste, on va dire. Les enfants, ils les voyaient comme des pères de famille, en fait. Et comme des papas, quoi, qui leur faisaient aussi un peu la morale. Et alors qu'ils ont l'habitude, ici, à leur arrivée, en tout cas, qu'on les voit soit comme des migrants, des demandeurs d'asile, des gens à la rue.
Puis un groupe, toujours...
Oui.
Quand on parle des migrants, on a toujours le sentiment de voir un groupe. Il n'y a pas de singularité, il n'y a pas de personnalité. C'est toujours...
Oui, puis c'est vrai qu'on les regarde avec un regard plutôt d'apitoiement. Parce que de fait, ce qu'ils vivent est difficile. Mais les enfants, ils n'étaient pas du tout dans ces considérations. Donc il y avait
Ils voulaient en savoir plus sur leur histoire.
Voilà, et donc eux, ils étaient dans une posture d'adulte et d'éducateur face à des enfants. Donc c'était assez intéressant aussi de ce que ça provoquait.
Isabelle Coutant est l'invitée ce dimanche. Les migrants en bas de chez soi, c'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions du Seuil. On la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beur FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beur FM.
Isabelle Coutant est l'invitée de Voix au chapitre ce dimanche, Les migrants en bas de chez soi. Son livre est paru aux éditions du Seuil. Nous avons évoqué depuis le début de notre rencontre Les migrants en bas de chez soi. En bas de chez soi, c'est dans le 19e arrondissement, c'est Place des Fêtes, un travail d'Isabelle Coutant, sociologue, qui a observé, enquêté ensuite sur ce que transmettait, ce que révélait la venue de près de 104, près de d'une centaine, 150 migrants en été 2015 et qui s'est monté à près de 1400 lors de l'évacuation de cette occupation du lycée vers la fin octobre. Et tout au long de notre rendez-vous ce jour, nous parlons de ce que c'était que avoir des migrants en bas de chez soi, de ce que c'était que être habitant dans un quartier où on voyait les migrants, ce qu'étaient les migrants dans ce que vous avez rencontré au quotidien dans ce lycée. Et peut-être que évoquer maintenant la solidarité. Puis quand on dit solidarité, ben on le dit au féminin. Et ça tombe bien parce que vous l'évoquez aussi dans votre livre et ça m'a interpellée fortement. La solidarité, elle est souvent féminine. on la retrouve dans votre enquête, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui sont solidaires. Dans les réseaux de solidarité, de manière générale, on retrouve des femmes.
En tout cas, cette
solidarité. La sociologue, qu'est-ce qu'elle peut nous dire là-dessus?
Cette solidarité du quotidien, cette solidarité un peu humanitaire, on va dire, hein, où il s'agit aussi de répondre aux besoins premiers, c'est souvent une solidarité de femmes. Alors, dans le quartier, elle s'inscrit dans la suite des engagements de parents d'élèves, qui sont aussi majoritairement des engagements féminins, et dans la suite des engagements au sein du réseau Éducation sans frontières, qui est né dans les années 2000, qui est aussi massivement un engagement féminin. Alors pourquoi des femmes? Pourquoi des femmes sur ce type d'engagement? L'engagement auprès des vulnérables, auprès des pauvres, c'est quelque chose qui est historiquement aussi traditionnellement féminin. Les métiers du care, qu'on appelle les métiers du care, du soin à l'autre, sont quand même des métiers pour le moment plutôt féminin, et ça veut pas dire que c'est dans les gènes
oui,
des femmes, mais effectivement, historiquement, familialement, les femmes se construisent, on les élève, et elles portent cette idée qu'elles doivent s'occuper des autres. Il faut aider, donc ça se elles héritent beaucoup plus de cette injonction, même inconsciemment, que les garçons. Donc c'est des siècles d'histoire, et donc pour le moment.
Mais c'est important de le souligner quand même. Vous le soulignez bien dans un chapitre.
Alors là, c'est aussi un engagement féminin, donc à l'échelle locale, puisque ce sont plutôt des femmes quadragénaires qui sont parents d'élèves, qui se connaissent depuis longtemps et qui réactivent tous ces réseaux qui se sont constitués autour des écoles. Donc elle réactive ses réseaux pour venir en soutien aux migrants. Il y a aussi le fait que ces migrants sont majoritairement des hommes. Alors quand ce sont des hommes, finalement, leurs conjoints, quand il y a des bagarres par exemple, sont pas à l'aise pour intervenir, ont peur d'attiser les problèmes. Donc paradoxalement,
parce que le regard des femmes pour
les femmes se sentaient plus à l'aise probablement pour rentrer dans le bâtiment que leurs compagnons. Inversement, quand c'était des femmes qu'il fallait mettre à l'abri, il y avait quelques femmes qui parfois arrivaient là, c'était plus facile aussi pour les femmes de les accompagner vers les hôtels, donc plutôt des femmes. Mais cela dit, au-delà de ça, il y avait par les réseaux sociaux, il y a énormément de jeunes étudiants et étudiantes qui sont arrivés dans ce lycée pour aider, d'un peu partout en Île-de-France, même parfois de l'étranger. Enfin, il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de soutien qui passait une fois, deux fois, trois fois, beaucoup de monde qui est passé dans ce lycée. Et là, c'est aussi majoritairement des femmes, ces jeunes étudiantes d'une vingtaine d'années qui venaient donner des cours de français, visiter Paris, qui faisaient des accompagnements à l'hôpital. Enfin, toutes ces formes d'aide qui s'organisaient aussi par les réseaux sociaux, c'était majoritairement féminin. Donc là aussi, parce que les dispositions féminines peut-être portent davantage à ce type d'engagement. Et aussi, il y a eu une rencontre quand même entre des hommes et des femmes dans ce lieu.
Oui,
il y a ces hommes qui arrivent d'un peu partout, ont une vingtaine d'années, ces étudiantes ont une vingtaine d'années. Donc il y a aussi quelque chose qui s'est passé à ce niveau. Voilà, dans ce lieu.
Alors vous avez été plusieurs soirs, plusieurs jours, donc vous êtes une femme aussi, auprès de ces hommes. Ils se confiaient facilement, il a fallu du temps pour qu'ils se confient, pour qu'ils témoignent de leur histoire, de ce partage de repas qui était plutôt convivial et très fort, mais sans aucun doute. Mais on parlait à ce moment-là ?
On parlait, je pense que là où ils se méfiaient de moi, ils ont pensé même que peut-être j'étais des renseignements généraux, des choses comme ça. Je pense que sur le récit
ils
lui-même...
Ils savaient que vous n'étiez pas la journaliste, en tout cas.
Moi, j'ai dit que j'étais voisine et sociologue. J'ai d'emblée dit que je faisais aussi une recherche sur ce qui se passait dans le quartier. Donc, je n'ai pas caché cette chose-là, même si c'était peut-être un peu abstrait pour eux. Mais donc, je me suis présentée avec cette double casquette. Après, ce qui les intéressait, c'était d'échanger, de discuter. Ils n'étaient pas rétifs à discuter... mais pas de tout, c'est-à-dire que je pense que sur la question des raisons de l'exil, ils me disaient ce qu'ils avaient envie de me dire, mais je pense qu'ils se méfiaient, et à juste titre. Après, par contre, il y avait beaucoup d'échanges, ils étaient très en demande, très curieux de savoir ce qu'était la vie ici, ils étaient en demande d'échanges, de discussions informelles, affective, et donc ils me parlaient assez facilement quand même de ce qu'était leur vie, leur famille, leurs enfants, les relations hommes-femmes chez eux, les relations hommes-femmes ici, donc ça assez facilement. Il y avait des discussions faciles sur tous ces sujets-là, et sur aussi leur douleur, leur... j'étais étonnée de la facilité avec laquelle ils parlaient quand même de leurs émotions. Et est-ce que c'est le contexte qui produit ça, ou est-ce que c'est dans leur culture que finalement on peut quand même parler de soi, je sais pas, ou est-ce que c'est plus facile avec quelqu'un de totalement étranger? Mais il y a aussi certains que j'ai pu accompagner par des psychologues, ils n'étaient pas hostiles à ça.
Alors, quand vous entendez des histoires singulières, douloureuses, vous apprenez de ça, vous prenez, voilà, en pleine face, comme on dit au Québec, ces histoires. Vous partagez, vous, ces histoires? Vous parlez de vous? C'est dans les deux sens ou...
Oui, alors... Oui.
Souvent, dans des rencontres comme ça, on se dit que pour ne pas être que observateur, que sociologue, il faut aussi donner. Mm-hmm. Vous recevez, donc vous donnez aussi.
Oui, bien sûr, je parle de moi. Et surtout qu'à ce moment-là de l'enquête, quand je suis rentrée dans ce lycée et que j'ai été dans toutes ces relations informelles et dans tous ces échanges informels, je savais pas forcément ce que j'allais en faire. Si, pour moi, l'enquête, elle portait davantage sur le quartier. Tout comme quand j'ai emmené quand on a organisé les rencontres au collège, je savais pas que j'allais en faire un chapitre, en fait. C'est-à-dire que c'était tout, un peu tout brouillé. La dimension personnelle de ce que je vivais, la dimension de la recherche, c'était pas très net.
Oui, ça se mêlait dans votre vie.
Ça se mêlait, voilà. Et donc, je savais pas forcément ce que j'allais utiliser au final dans l'ouvrage. Et donc, tous ces échanges, effectivement, où il me posait beaucoup de questions sur qui j'étais moi comme femme, quelle était ma vie à moi de femme, évidemment que j'ai répondu. Et à ce moment-là de la recherche, je savais pas. D'ailleurs, j'en parle assez peu de ça, mais oui. Et il est évident que ce que j'ai obtenu de leur histoire est lié aussi au fait que j'ai parlé de moi.
Oui, bien sûr. Oui. C'est pour ça que cette question était justement sur cet aller-retour. Voilà, moi, je raconte ma vie, mais qui c'est cette femme? Qui c'est?
Voilà. Et mais c'était d'autant plus intéressant que le statut des femmes ici et là-bas, pour le coup, ils venaient des pays pachtoun afghans quand même. Donc où les femmes portent la burqa, où elles sortent jamais sans homme de la maison, où les mariages sont arrangés. Donc ils arrivent là et ils ont affaire à des femmes comme nous. Donc on est objet de curiosité. C'est un objet de curiosité. Voilà. Donc on était aussi exotiques les uns pour les. Enfin voilà, j'étais autant exotique pour eux qu'ils l'étaient pour moi.
Alors ce livre, il a paru il y a quelques mois. Il est évidemment le travail de réflexion, d'émotion aussi, de ce que vous avez mené pendant ces deux mois d'occupation de ce lycée dans Place des Fêtes. Quand il y a eu l'évacuation, ce matin-là, c'était violent, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé en vous, chez la sociologue, chez la femme, comme d'autres habitants? Voilà, c'était ce vide, c'était cette absence. Mais vous avez dépassé l'absence et vous avez écrit ça.
Oui. Alors, il y avait quand même un soulagement que ça s'arrête parce que c'était... En fait, ça avait pris toute la place dans nos vies. Et puis, il y avait la situation se dégradait. Donc, il y avait une tension grandissante. Donc, il y avait quand même un soulagement en même temps...
Espérant qu'ils allaient trouver du mieux, là
voilà,
où on allait les conduire.
Là où ils iraient. Après, moi, ceux avec lesquels je m'étais liée, j'aurais voulu qu'ils restent. Évidemment, surtout que je savais que ça allait être transformé en centre d'hébergement d'urgence transitoire. J'avais envie que cela reste. Mais voilà, sur le moment, ça a été une séparation. On n'avait pas forcément non plus complètement envie de se séparer. Sur le moment, en plus, on savait pas où ils allaient être logés, si ils allaient être en région parisienne ou loin en France. Donc, on savait pas si on allait se revoir, comment. Bon, de fait, moi, ceux avec qui j'étais le plus liée ont été relogés à Nanterre. Donc, on est resté quand même en lien. On s'est vu souvent dans l'année qui a suivi.
Et aujourd'hui?
Et ça s'espace, mais on est toujours en contact.
Mais leur vie est là pour certains?
En tout cas, ils ont obtenu, les Afghans Pachtounes à cette époque-là, ils ont obtenu facilement la possibilité de rester, l'autorisation de rester pour un an. Pas forcément la carte de séjour de 10 ans, mais pour un an assez facile à renouveler en principe. Donc moi, parmi ceux que j'ai fréquentés, ils sont tous là, dans une situation maintenant régulière. Pour certains, ils travaillent dans la sécurité, dans la traduction, dans le bâtiment, petit commerce. Ils ont un logement. Il y en a un seul pour le moment qui a pu faire venir sa femme et son fils. Donc les autres sont encore séparés de leur famille, mais leur situation s'est stabilisée. Donc on se voit plus comme à l'époque, mais la séparation s'est faite progressivement. Voilà.
Isabelle Coutant, Les migrants battent chez soi, c'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions du Seuil. Une petite dernière question qui est pourtant assez importante, mais le temps nous manquerait. Sur les responsabilités politiques des migrants aujourd'hui, quelle est votre inquiétude, votre interrogation? On fait peu, on fait pas, on recule on...
Sur la manière
dont on gère, c'est comme ça qu'ils disent d'ailleurs les institutions.
Ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, sur les questions des migrants.
Ouais,
qui sont pas un problème mais une réalité, comme je le dis souvent.
Ouais. Non, c'est effectivement, c'est on n'est pas dans une période où l'Europe s'ouvre davantage. C'est vrai que ce qui est inquiétant, c'est ce qui s'est passé en Italie et c'est ce qui se passe dans certains pays du Nord, ce qui se passe parfois dans certaines régions d'Allemagne, où après l'ouverture, finalement, il y a quand même, ne serait-ce que aussi dans certains pays d'Europe du Nord, ils nous ont fait un peu la leçon en étant beaucoup plus généreux que nous. Et puis après, il y a eu un retournement de l'opinion. Donc c'est vrai que ce sont des situations complexes, quoi. C'est quel arbitrage, comment accompagner pour que les opinions publiques ne se retournent pas. C'est vrai que pour que l'accueil se passe bien, pour que l'intégration se fasse, même si ce mot tout le monde ne l'aime pas, mais c'est pas seulement les pouvoirs publics, c'est pas seulement l'État, et c'est un travail de la société dans son ensemble. Donc
quand
je pense
qu'ils sont en bas de chez soi, faut les regarder.
Voilà, faut les rencontrer. Le fait de rencontrer, ça allège beaucoup les peurs. Et puis effectivement, il y a tout un travail que les politiques, les journalistes, les intellectuels, les artistes doivent faire, qui est d'essayer de casser tous les stéréotypes, tous les fantasmes, toutes les rumeurs, quoi. Je pense que ça, c'est notre rôle à nous.
Isabelle Coutan, Les migrants bas de chez soi, son livre est paru aux éditions du Seuil. C'est un livre très très intéressant, très riche de, à la fois d'interrogations, de réflexions et puis de témoignages aussi. Et juste un mot peut-être sur le dernier témoignage de Omar.
Oui.
Vous nous dites un mot sur lui?
Alors Omar, il est passé aussi par ce lycée. C'est un jeune étudiant soudanais qui est arrivé en France aussi avec plein de projets, notamment celui de traduire Spinoza en arabe.
Faut le faire.
Voilà. Et Omar, il a rencontré des jeunes étudiants de l'école normale supérieure dans la rue à Paris. Avec eux, il a participé à la mise en place d'un programme d'accueil des étudiants exilés à l'école normale supérieure, qui a été pionnière dans l'ouverture de l'enseignement supérieur aux exilés. Ça s'est répandu après un peu partout en Île-de-France. Et Omar, effectivement, il a fait une conférence à laquelle j'ai assisté dans l'université à Saint-Denis, et où il s'interrogeait sur le pourquoi de cette fermeture en Europe. Il dit, moi je suis venu en Europe parce que je cherchais les droits de l'homme, et puis voilà, il connaît tous nos philosophes, l'esprit des Lumières, c'est ça qu'il est venu chercher. Donc il dit, pourquoi on nous accueille si mal et de quoi les Européens ont-ils peur? Il s'interroge aussi sur la question de l'islam, et il dit qu'il faudrait qu'il y ait davantage d'alliances entre les intellectuels occidentaux et les réformateurs dans les pays musulmans, qu'il faut déconstruire tous les stéréotypes aussi et cette vision unifiée de l'islam. Et il dit que lui, il veut pas être seulement un problème, il veut faire partie de la solution.
Merci pour ces mots de la fin, Isabelle Coutan. Les migrants bas de chez soi, c'est le titre de votre livre paru aux éditions du Seuil. Au revoir, merci d'être venu ce dimanche à Beurre FM. On se retrouve, pour ma part, la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Voix au chapitre sur Beurre FM.